Donc nous allons reprendre la conférence César. Et cette fois-ci, donc, la virtualisation s'est terminée. Maintenant, nous abordons la partie intelligence artificielle et cybersécurité, donc, qui va être structurée en différentes sessions pour lesquelles nous aurons un ou une chairman. Pour démarrer, c'est une chairman. Donc je demande à Amélie Chérubin de nous rejoindre, la scène.
Bonjour, donc, je m'appelle Amélie Chérubin, je travaille dans le département Data Science et Intelligence Artificielle à DGA Maîtrise de l'Information. Donc aujourd'hui je vais être la chairwoman, on va dire, de cette session qui s'intitule Intelligence Artificielle pour la sécurité des systèmes embarqués. Donc nos deux premiers intervenants seront Benoît Gérard et Christophe Genevé. Docteur en cryptographie, Benoît Gérard est ingénieur à la DGA et chercheur associé dans l'équipe MSEC. Son activité principale est liée aux attaques par canaux auxiliaires. Ensuite, donc, nous avons Christophe Genevé, donc, qui débute sa deuxième année de thèse au sein de l'équipe TAMIS, travaillant sur les attaques par canaux auxiliaires avec de l'apprentissage automatique. Donc, ils vont maintenant vous présenter leurs travaux. Combining sources of side channel information.
Merci. Donc, on va présenter des résultats préliminaires sur une étude qu'on est en train de mener sur la combinaison de différentes sources d'informations pour les attaques par canaux auxiliaires, et en particulier dans le cas où on utilise de l'intelligence artificielle. Donc, c'est des travaux qui sont menés ici à Rennes avec Annelie Heuser qui n'est pas présente, Christophe et moi-même. Et avant de donner le pointeur, si vous l'avez, pour point. Il est ? C'est ça, autant pour moi. Voilà, très bien. Avant de commencer et de laisser la parole à Christophe pour vous présenter tout ça, je vais juste remettre un petit peu de contexte. Donc ce qu'on regarde, nous, ce sont des attaques qu'on appelle des attaques physiques. Ce sont des attaques qui ont un sens si un attaquant a accès physique à un composant qui va faire de la sécurité. Et pour expliquer ça, en général, on prend une analogie avec le coffre-fort. Donc le coffre-fort, il a pour but de protéger des données, comme notre composant de sécurité. Donc là, la technique de protection, c'est une combinaison qu'il faut connaître pour pouvoir ouvrir le coffre. Dans le cas d'un composant, ça peut être un mot de passe, ça peut être une clé de chiffrement. Et donc l'attaquant, normalement, il doit tester toutes les combinaisons pour pouvoir ouvrir le coffre. Ceci dit, l'attaquant, il peut aussi essayer de forcer la porte du coffre avec un pied de biche, une perceuse ou je ne sais quoi. Il peut aussi être un petit peu plus passif et venir observer la combinaison, en tout cas récupérer l'information sur la combinaison en manipulant le mécanisme et en utilisant un stéthoscope pour récupérer l'information sur la combinaison secrète. Pour les composants de sécurité, on a la même chose, on est capable de venir perturber le composant, par exemple en envoyant un gros coup de laser au moment d'un calcul, et on est aussi capable de venir observer le composant pour récupérer l'information. Et ces attaques-là, c'est ce qu'on appelle des attaques par canaux auxiliaires. C'est ce que va présenter Christophe, et ça a une application à la fois dans le civil, on pense aux cartes bancaires et aux set-up box par exemple, qui se retrouvent potentiellement chez l'attaquant, mais aussi dans le domaine défense, parce qu'on a par exemple des missiles ou des radios qui vont se retrouver sur le théâtre d'opération et potentiellement vont se retrouver entre des mains ennemies. Donc je vais laisser Christophe présenter maintenant les résultats qu'on a sur les attaques par canaux auxiliaires.
Donc, merci. Donc, je vais commencer par une petite introduction aux attaques par canaux auxiliaires. Donc, qu'est-ce qu'une attaque par canaux auxiliaires ? Donc, imaginez que vous avez un algorithme cryptographique qui tourne. Il prend en fait en entrée un texte et il fournit en sortie un texte chiffré. Cet algorithme en fait va être exécuté sur une carte et durant l'exécution de cet algorithme, suivant les opérations qu'il fait, en fait, la carte va fournir différents canaux auxiliaires, comme par exemple différentes émissions électromagnétiques, une consommation du courant différent, un différent temps d'exécution, différents sons et différentes chaleurs. Donc un attaquant, en fait, en analysant ces canaux auxiliaires, peut découvrir de l'information sensible, notamment dans le cas d'un algorithme cryptographique qui peut découvrir la clé qui a été utilisée. Donc tout d'abord, je parlerai en fait de l'état de l'art relatif aux attaques par canaux auxiliaires. Ensuite, je vous présenterai l'expérience qu'on a mis en place et je finirai par vous parler des résultats que nous avons obtenus. Donc il existe deux types d'attaques par canaux auxiliaires, des attaques non profilées et des attaques profilées. Les attaques non profilées, elles, consistent à utiliser des outils statistiques et certaines hypothèses pour découvrir de l'information sensible. Et on a les attaques profilées qui, elles, sont, se passent en deux étapes. D'abord, on estime comment le modèle fuite et ensuite, on utilise cette estimation pour découvrir de l'information sensible. Donc, dans les attaques profilées, en fait, on n'a pas besoin d'hypothèses sur comment fonctionne l'algorithme. Récemment, avec l'essor de l'apprentissage automatique, on a des attaques par canaux auxiliaires qui sont basées sur de l'apprentissage automatique, notamment sur de l'apprentissage profond. Et du coup, ici, en fait, j'ai listé les principaux techniques qui existent pour les attaques non profilées et les attaques profilées. Ces techniques sont également appelées techniques traditionnelles, car elles ne reposent pas en fait, sur des méthodes d'apprentissage automatique. Donc, il y a un papier qui est en fait une référence dans les attaques par canaux auxiliaires et l'apprentissage automatique. Dans ce papier, en fait, on a la publication d'une nouvelle base de données qui s'appelle ASCAD. Donc, cette base de données a entre autres été conçue par l'ENSI. Dans ce papier, on a également la preuve de la performance des réseaux de neurones contre certaines contre-mesures, notamment contre la contre-mesure, la contre-mesure par masquage. Et on a également une étude sur les différentes architectures de réseaux de neurones et leur impact sur les attaques par canaux auxiliaires. Mais donc dans ce papier, en fait, les chercheurs se sont uniquement focalisés sur un seul canal d'information. Mais bien évidemment, en fait, il existe des travaux qui ont utilisé une approche avec plusieurs canaux d'information. Et notamment, il y a des travaux qui ont permis de déterminer quel canal fournissait le plus d'informations entre la consommation du courant et l'émission électromagnétique. Quels étaient les canaux qui étaient les meilleurs pour faire de la combinaison. Et enfin, il y a un article qui montre en fait une amélioration des techniques traditionnelles en utilisant en fait plusieurs canaux d'information. Mais la plupart en fait de ces articles utilisent des techniques traditionnelles. Donc nous, notre but, c'est d'utiliser l'approche avec plusieurs canaux d'information et avec de l'apprentissage automatique, notamment de l'apprentissage profond. Donc on veut en fait utiliser les avantages que l'apprentissage profond offre en attaque par canaux auxiliaires, notamment les performances qu'elles offrent vis-à-vis des contre-mesures. Et enfin, on veut utiliser toutes les informations en fait, qui sont disponibles par différents canaux d'information. Donc maintenant, je vais vous présenter l'expérience que nous avons faite. Donc notre approche en fait, a été de combiner différentes sources d'émissions électromagnétiques qui provenaient de différents endroits sur la carte. Donc on a une première sonde en fait, qui va capturer le trigger. Donc ça va juste permettre en fait, de récupérer le signal de départ. Cette sonde s'appelle EM1. On a deux sondes qui vont capturer les données qui vont fuiter, qui s'appellent EM2 et EM3. Et on a une sonde qui va plutôt capturer en fait, l'émission électromagnétique qui est liée à du bruit ambiant. Et qui s'appelle du coup EM4. Notre première idée, en fait, c'était de comparer les résultats qu'on avait obtenus avec les résultats du papier d'ASCAD. Et donc, pour ce faire, on a en fait, fait une expérience qui est similaire à l'expérience qui a été présentée dans le papier. Et nous avons également utilisé la même architecture de réseau de neurones. Donc, notre mesure a été faite sur une carte AVR ST500. Dessus, on avait un microcontrôleur ATmega 8575 et on a utilisé en fait un AES128 qui était protégé avec une contre-mesure par masquage. Donc ici, vous avez en fait une image de l'expérience que nous avons fait. Donc ici, on a la carte, on a ici le microcontrôleur, on a les deux sondes EM2 et EM3 qui sont proches du microcontrôleur et qui vont en fait capturer les données qui vont fuiter. Et on a ici une sonde EM4 qui est un peu plus éloignée du microcontrôleur et qui va plutôt capturer du bruit. On a également utilisé différents types de sondes qui sont proches du microcontrôleur afin en fait d'avoir différentes informations. Donc, comme je l'ai dit précédemment, on a utilisé un AES, on a fait tourner un AES sur cette carte. Donc ici, c'est juste pour vous donner une vision globale de l'AES qu'on a utilisé. On a utilisé le même AES qui a été présenté dans le papier d'ASCAD. Et donc, dans cet AES, en fait, on va cibler certaines valeurs intermédiaires. Donc, il y en a 5 qui va de P1 à P5. Donc, ces valeurs intermédiaires sont également présentées dans le papier d'ASCAD. Nous, pour des contraintes de temps, on s'est uniquement focalisé sur P2 et P4, qui correspond en fait à la sortie de l'Hsbox masquée et à la sortie de l'Hsbox masquée pour la partie linéaire. Donc en fait, dans l'AES, ces deux opérations se situent en fait ici, au cœur de l'AES. Donc maintenant, je vais parler un peu plus en détail du réseau de neurones et de son but. Donc le but du réseau de neurones, en fait, ça va être de découvrir certaines valeurs de bits de clé qui vont correspondre en fait aux valeurs de P2 et de P4 que j'ai présentées précédemment. Donc notre réseau de neurones va prédire une liste de 256 scores qui vont correspondre aux 256 valeurs possibles. Notre réseau de neurones va également prendre en entrée 700 points d'intérêt. Donc ces 700 points d'intérêt vont être sélectionnés grâce à la métrique rapport signature bruit. Et nous allons également utiliser la précision et la guessing entropy pour évaluer la performance de notre modèle. Et enfin, on utilise la cross-validation pour estimer la fiabilité de notre modèle. Donc, je vais présenter en fait chaque métrique. Donc, d'abord, la métrique rapport signal sur bruit, en fait, elle permet juste de donner le rapport entre les données qui fuitent et le bruit qu'on a. Cette métrique en fait, va être utilisée avant l'apprentissage du réseau de neurones afin de sélectionner les 700 points qu'on va lui donner. Ensuite, on a la métrique précision qui va donner en fait le nombre de labels qui va être correctement prédit sur le nombre total de labels. Donc, c'est la métrique qui est la plus utilisée en apprentissage automatique. Donc, on va l'utiliser pendant l'entraînement du réseau de neurones afin de le guider vers de meilleures solutions. Cette métrique donne une valeur entre 0 et 1. Et bien évidemment, plus on est proche de 1, et meilleur notre modèle est. Et enfin, la guessing entropy, qui est la métrique qu'on va utiliser une fois que notre réseau de neurones sera entraîné pour la phase de test. Donc la guessing entropy en fait, va donner le rang d'une clé secrète grâce à une liste possible de valeurs de clés. Donc en fait, pour chaque trace qu'on aura, notre réseau de neurones va prédire une liste de probabilités. Cette liste de probabilités va juste correspondre en fait, à la probabilité d'avoir telle valeur de clé suivant telle trace. Donc pour tous les traces, on aura différentes listes de probabilités. On va combiner ces listes de probabilités juste pour avoir la liste de probabilités pour les valeurs de clé. On va trier cette liste afin d'avoir en sommet en fait la probabilité la plus élevée. Et étant donné qu'on connaît en fait le label, on va être capable de déterminer quel est le rang de la clé. Comme par exemple ici, si le label était 50 et que ma probabilité d'avoir la clé 50 est en première position, on aura un rang égal à 0. Donc ici, en fait, plus on est proche de 0 et mieux on arrive à déterminer la valeur de la clé. Donc cette métrique est très intéressante car elle permet en fait de combiner différentes traces et de voir à partir de combien de traces en fait on peut déterminer la valeur de la clé. Et enfin, la cross-validation, du coup, qui permet d'estimer la fiabilité de notre modèle. Donc en fait, sur toutes nos traces, on va y découper en plusieurs segments. On va en sélectionner un comme étant notre jeu de validation, un autre comme étant notre jeu d'entraînement. On va itérer cette opération plusieurs fois, ce qui va nous donner différents folds. Et à chaque fold, en fait, on aura un jeu d'entraînement et de validation différent. Deux, trois détails par rapport à l'architecture donc, du réseau de neurones. Donc, comme je l'ai dit précédemment, on a utilisé la même architecture que le papier présent dans ASCAD. Donc, l'architecture pour un seul canot ne change pas. On a toujours en entrée les 700 points, qui sont suivis par 5 couches de convolution plus de pooling, plus une couche de flatten et 2 couches de dense. Et pour les architectures à 2 et à 3 canaux, il y a juste en fait les données d'entrée qui vont changer. Pour 2 canaux, on aura en fait 2 fois 700 points, et pour 3 canaux, on aura 3 fois 700 points. D'autres détails par rapport à l'entraînement. Donc on a utilisé 80 000 traces pour l'entraînement, 20 000 traces pour la validation. On a utilisé 6 000 traces pour la phase de test, avec 30 clés différentes. Donc on a 200 traces par clé. Ces 200 traces vont notamment être utiles pour calculer la guessing entropy. Pour les traces d'entraînement et de validation, on a choisi en fait différentes clés à chaque fois. On a défini un nombre d'époques égal à 30, le batch size était égal à 200, l'optimisation c'était RMS prop. On a utilisé le framework Keras et on y a entraîné et testé sur 2 GPU. Donc pour les paramètres en fait de batch size et d'optimisation, on a juste utilisé les mêmes que ceux présentés dans Keras. Et pour le nombre d'époques, on avait commencé à utiliser le même. le même que Keras, que le papier d'Ascad, qui est égal à 75, mais vu qu'on avait en fait une convergence à partir de 30 époques, on s'est limité à 30 époques. Donc maintenant, je vais vous présenter les résultats que nous avons obtenus. Donc tout d'abord, pour vous montrer en fait à quoi ressemble une mesure. Donc ici, vous avez un exemple. Donc sur l'axe des X, vous avez le temps. Sur l'axe des Y, vous avez l'amplitude. Vous avez de différentes couleurs en fait le signal capturé des différentes sondes, donc EM2, EM3, EM4. Donc ici, en fait, on peut voir que EM2 et EM3 fournissent plus d'informations que EM4, ce qui est en fait tout à fait logique, car c'est les deux sondes qui sont le plus proches du microcontrôleur. Et enfin, en fait, on peut voir une différence entre EM2 et EM3. Cette différence, en fait, est due aux différents types de sondes que nous avons utilisées. Donc maintenant, j'ai parlé des résultats par rapport à la métrique rapport signal sur bruit. Donc j'ai commencé avec les résultats de la sonde EM2. Donc tout d'abord, je vais me focaliser sur le graphique de gauche. Donc sur l'axe des X, vous avez le temps. Sur l'axe des Y, vous avez donc le rapport signal sur bruit. Vous avez de différentes couleurs les résultats pour P2 et P4. Donc en fait, ici, on peut voir les fuites de données liées à P2 et P4. On peut voir qu'on a beaucoup de fuites de données au niveau de P4, qu'on en a un peu au niveau de P2. Et enfin, sur l'attente, en fait, vous avez un zoom sur la zone que j'ai sélectionnée et que j'ai donnée au réseau de neurones. Donc en fait, dans cette zone, on peut voir qu'on a le plus haut pic et qu'on a des fuites liées à P2 et P4. Ensuite, les résultats pour la sonde EM3. En fait, vu que la sonde EM3 capture moins de signal, en fait, on a une fuite de données qui est moins importante. On a toujours plus de données qui vont fuiter au niveau de P4. Et enfin, sur la même fenêtre que j'ai sélectionnée, on a toujours de la fuite. Et enfin, pour la sonde EM4, qui, elle, capture le bruit. Donc c'est en fait très intéressant, parce que si on prend la totalité de la fenêtre, on peut voir qu'apparemment, en fait, on n'a pas de fuite de données, vu qu'elle est plus éloignée que les autres sondes. Mais si en fait si on sélectionne toujours la même fenêtre, en fait on peut voir qu'on capture quand même un peu de données qui fuitent malgré qu'elles soient éloignées du microcontrôleur. Donc maintenant j'ai parlé des résultats vis-à-vis de la précision sur le jeu de validation. Donc j'ai commencé avec les résultats d'un seul canot. Donc ici c'est le résultat avec un seul canot qui correspond en fait juste au résultat de la sonde EM2. Donc sur la gauche, vous avez en fait les résultats pour P2, sur la droite, vous avez les résultats pour P4. Sur les deux graphes, sur l'axe des X, vous avez le nombre d'époques, sur l'axe des Y, la précision sur le jeu de validation. Vous avez différentes courbes bleues et oranges qui correspondent en fait aux différents modèles qui ont été entraînés avec la cross-validation. Vous avez en noir la valeur moyenne et en vert la précision si on essayait de prédire aléatoirement la valeur. Donc en fait ici ce qu'on peut voir c'est que le modèle en fait arrive mieux à prédire P4 que P2. Par exemple si on prend sur P4 la précision qu'il a obtenue à l'époque 20, en fait on est proche de 0.10. Alors qu'avec P2 en fait à l'époque 20 on est en dessous de 0.04. Ensuite la précision avec deux canaux. Donc les deux canaux qu'on a utilisés, c'est la combinaison des informations de EM2 et EM3. Donc la légende ne change pas. On peut en fait toujours voir que notre réseau de neurones en fait a toujours plus de simplicité à prédire P4 que P2. À l'époque 20, en fait, on est toujours égal à 0.10, alors qu'avec P2, à l'époque 20, on est en dessous de 0.04. Et enfin, en fait, avec trois canaux, donc la combinaison de toutes les sondes, EM2, EM3 et EM4, on obtient en fait des résultats similaires. Et enfin, je vais vous parler des résultats concernant la guessing entropy. Donc, comme précédemment, j'ai commencé à parler des résultats avec un seul canal. Donc, sur la gauche, vous avez toujours les résultats pour P2 et à la droite, toujours les résultats pour P4. Donc, sur l'axe X, vous avez le nombre de traces. Sur l'axe Y, vous avez le rang moyen. Vous avez les résultats des différents modèles entraînés avec la cross-validation, et en noir, la valeur moyenne. Donc en fait, ici, on peut constater le même phénomène qu'avec la précision, ce qui veut dire que notre modèle en fait, arrive mieux à prédire P4 que P2. En fait, ici, si par exemple on prend deux traces, on peut voir qu'on atteint un rang moyen égal à 0, ce qui veut dire qu'il arrive parfaitement à prédire la valeur de la clé, alors qu'avec P2, avec deux traces, il n'a pas encore en fait atteint un rang qui est égal à 0. Donc les résultats avec deux canaux, donc pour P2, en fait, on a une petite différence au niveau du rang moyen au départ, qui est un peu plus élevé, alors que pour P4, c'est un peu plus faible. Et enfin, avec trois canaux, en fait, dans les deux cas, on commence en fait avec un rang moyen qui est plus élevé qu'avec deux canaux et avec un seul canal. Donc en fait, nos résultats ont montré que dans notre contexte, utiliser plusieurs canaux d'information n'améliorait pas les performances de notre réseau de neurones, car en fait, on a déjà un seul canal qui fournit assez d'informations et qui permet de parfaitement prédire les valeurs de clés. Donc en fait, dans nos futurs travaux, on aimerait d'abord investiguer un scénario où un seul canal ne fournit pas assez d'informations, voir si justement l'apport d'autres canaux est bénéfique. On aimerait combiner d'autres canaux auxiliaires, comme par exemple la consommation du courant ou l'émission électromagnétique. On aimerait aussi étudier les multicanaux dans d'autres contextes. Comme j'ai parlé en fait dans l'état de l'art, il y a notamment un papier qui parle de l'amélioration d'une technique traditionnelle. Donc peut-être utiliser un contexte qui soit similaire à celui-là. Et enfin, on aimerait essayer d'autres architectures de réseaux de neurones. Pour l'instant, dans notre expérience, on s'est juste focalisé sur la même architecture que le papier ASCAD, mais étant donné qu'on a des données différentes, peut-être qu'il faudrait changer aussi l'architecture de notre réseau de neurones. Merci pour votre attention.
Merci Christophe. Ben voilà, maintenant on est arrivé à la séance des questions. Donc dans la salle. Je ne vois pas de main se lever. Si, en bas à droite, par rapport à la scène. Et en haut, voilà. On commence en bas, oui.
Bonjour. Je voulais savoir si, avant de tester des nouvelles architectures de votre réseau de neurones, vous avez essayé de simplement faire varier quelques hyperparamètres, parce que ça doit être un peu plus simple et plus rapide à mettre en place, et ça peut peut-être déjà vous donner des pistes sur est-ce que l'architecture du papier optimale du coup est la même pour votre problème à vous.
Du coup, non, on n'a pas essayé de faire une recherche d'hyperparamètres. C'est quelque chose qu'on avait en vue. En fait, vu qu'on a quand même beaucoup d'hyperparamètres, on a pas regardé en fait ce qui pourrait être plus bénéfique à changer en premier.
En haut à gauche, tout en haut.
Merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez testé l'impact que pouvaient avoir les compilations défensives sur vos résultats ? C'est-à-dire que maintenant que le réseau neurone est bien entraîné, est-ce que vous avez fait des comparaisons là-dessus ?
Les compilations défensives
contre les 7 channels, ouais, pour réduire les fuites, etc. Est-ce que vous avez vu
dans le cadre de notre expérience, on a utilisé une contre-mesure par masquage. Je ne sais pas si c'est de ça que vous parlez.
Oui, peut-être pour répondre à la question, on n'a pas du tout utilisé ce genre d'outils. On a essayé de reproduire exactement ce qu'on avait sur ASCAD. Et d'ailleurs, un des problèmes qu'on a eu au début, c'est qu'on avait compilé en moins OS, là où ASCAD du compilé en moins O0, et on avait des résultats totalement différents, et des fuites qui apparaissaient, qui disparaissaient en fonction des optimisations du compilateur. Le but, c'était vraiment de se mettre le plus proche de ce qu'ils ont fait pour être sûr que leur architecture fonctionne, en fait. Mais effectivement, ça fait partie aussi des choses. On a des projets qui se lancent dessus sur essayer de voir comment est-ce qu'on peut réussir à la compilation, à protéger, et à quel point ça gêne ou pas les réseaux de neurones, ou est-ce qu'effectivement on arrive à s'en sortir parce qu'on a des architectures qui vont passer outre toutes ces optimisations-là de sécurité.
Une autre question ? Je ne vois pas de main se lever. Ben, donc on va vous, à Christophe et Benoît, donc on va vous remercier une nouvelle fois. Merci.